Rorda, la faux du temps. Lorsque mon ami Antoine est venu me voir, il était très abattu. Je lui posai à ce sujet une question amicale. « Oui, me dit-il, je suis fatigué et découragé. Je croyais m'être bien défendu contre le temps, mais hier, j'ai dû me rendre à l'évidence. » Sans m'en apercevoir, je subissais dans la lutte des pertes irréparables. C'est à prévoir, dis-je. Pourrions tous dire la même chose. Sans doute, je ne suis pas un imbécile. J'ai jamais eu la prétention de faire une cuirasse contre laquelle la faux du temps viendrait s'ébrécher. Lorsqu'on parvient à tuer le temps pendant quelques heures, il ne s'en porte pas plus mal pour cela. Je le sais, et depuis bien des années, j'envisage avec une sérénité parfaite la perspective de ma défaite finale. C'est même la certitude de ma mort qui fait que, par moments, j'adore la vie. On aime avec un tremblement douloureux et délicieux ce qu'on ne verra pas deux fois. Notre lutte contre l'adversaire invincible ne voudrait qu'être qu'un jeu. Je trouvais ce jeu passionnant. Les difficultés à vaincre stimulaient mon courage. Quand on est actif, agile et prévoyant, on peut éviter très longtemps le coup de la faux terrible. Et comme elle est exquise, cette paix dont on jouit parfois dans les moments de trêve. Mais hélas, la faux du temps n'est qu'une trompeuse métamorphose. Les armes que l'on tend emploie pour nous vaincre n'ont rien de noble, et son geste n'a rien d'auguste. Je me permets d'ajouter qu'il ne se montre pas très difficile dans le choix de ses alliés. Il ne dit même pas les services que lui rendent les souris et les gerces. Les inepties qu'on m'avait enseignées sur le panache, sur le clairon, sur Durandal et sur la bravoure de D'Artagnan m'ont empêché longtemps de comprendre que la vraie guerre dans laquelle nous serons engagés jusqu'au bout est une guerre sans beauté, une guerre déprimante, une guerre d'usure. Chaque jour, sans répit, nous sommes attaqués par un ennemi infatigable, silencieux et invisible, qui pourra mincir nos blindages pour perforer notre armure, pour rouiller notre épée, pour débiliter nos muscles et notre cerveau, se sert de lime, de rabot, de vilebrequin, de liquide corrosif et de gaz asphyxiant. On rencontre même des malheureux qui ont été rongés par le temps. Naïfs, nous avons cru bien des fois que l'adversaire nous accordait un armistice, mais jamais pas un seul instant son offensive sournoise ne s'est arrêtée. Enfin, on ne peut être que navré par son sadisme. Lentement, méticuleusement, il s'applique à enlaidir les visages les plus adorables. Pendant plus d'un quart de siècle, j'ai pris la vie au sérieux et j'ai beaucoup travaillé. J'ai écrit des livres dans lesquels j'essaie de mettre les hommes en garde contre de graves erreurs. Mais en accomplissant cette noble tâche, je négligeais, sans m'en douter, des besognes importantes. Hier, ma nouvelle servante, beaucoup plus consciencieuse que l'ancienne, m'a fait de tristes révélations. Elle avait inspecté mes armoires et passé en revue tous mes meubles. Et pendant que je travaillais au bonheur de l'humanité, le temps ne chômait pas. Mes draps de lit sont devenus transparents, complètement usés. Presque tous mes faux cols devront être mis dans la boîte à ordures. L'achat d'un tapis neuf pour le salon ne peut plus être retardé. Deux de mes fauteuils ont des faiblesses dans les jambes. Mon peigne a perdu quelques-unes de ses dents. Le temps s'est même amusé à effilocher le bas de mon pantalon noir. Enfin, quand ma servante m'a montré mes pots à lait, je me suis rappelé le vase brisé de Sully Prudhomme. Cette brave fille voulait encore me parler de mes bottines, mais je lui ai dit « Oh non, merci, cela suffit pour aujourd'hui. » J'étais atterré. Et désormais, il faudra que je dépense mon énergie d'une manière moins désintéressée. À notre époque, on a beau être un penseur de génie, on ne peut pas se passer de drap de lit. Lorsqu'Antoine l'humanitaire me quitta, je constatai que son fond de culotte était si luisant que Narcisse aurait pu s'y mirer. le temps lutteur sans noblesse, n'avait pas craint d'attaquer sa victime par derrière. Gazette de Lausanne, 9 mars 1922.